Dans le prochain Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Nilda Fernandez. Ferran Zaval. Et Daniel Mill.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 15h04, c'est l'heure de la Bassie, j'y suis avec Daniel Mermet.
Oui, c'est pour lancer un appel pour dénoncer les pratiques antidémocratiques. Pseudo-république, deux manifestants portaient des masques du président élu. Ils ont été immédiatement interpellés par la police politique et violemment. Les deux terroristes ont été arrêtés. Plusieurs personnes ont été blessées pendant l'interpellation. Nous sommes toujours sans nouvelles des deux jeunes arrêtés depuis 48 heures. Je sens d'indignation qui vous parcourt chacun et tous de s'interroger devant quelle ambassade devons-nous exiger leur libération, devons-nous. À Nice pendant la manifestation des fonctionnaires. Allez, ciao vive et portez-vous bien si vous le pouvez.
Oui, bonjour à toute l'équipe de la Bassie, j'y suis. Moi, je voulais revenir un peu sur l'affaire Proglio, qui renonce, j'adore le mot, il renonce à sa rémunération chez Veolia, mais par contre, il renonce pas à son emploi, hein, on l'a bien compris. Donc, les 450 000 euros là, qu'il devait toucher par an chez Veolia, il va aller où, en fait, ce pognon, et à qui, en fait? Parce qu'il était bien budgété, quelque part, ce pognon. Il est vraiment grand seigneur, ce type-là. Il va bosser pour rien. Enfin, chez Veolia, il va bosser pour rien, parce que chez EDF, il a touché 150 000 euros par mois, ce type. 150 000 euros par mois. Moi, dans ces conditions-là, moi, je travaille un mois, et on vit, moi et ma famille, à l'aise pendant 10 ans, tranquille. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'on commence à réfléchir à l'idée d'arrêter de payer nos impôts, quoi. Hein, histoire de montrer à tous les dirigeants d'entreprise et politiques, enfin ceux qui nous gouvernent, quoi, qu'on n'est pas dupes, quoi, de leurs mensonges et de leurs vols, quoi. Donc ça suffit maintenant. C'était Charlie de Loire-Atlantique. J'aurais bien voulu laisser des messages un peu rigolos, mais là, vraiment, ça me fait pas trop rire, quoi, cette histoire. Salut.
Bonsoir Daniel, bonsoir à l'équipe de là-bas, c'est Saïd de Paris. Voilà, je viens d'entendre, M. Proglio vient de faire parler de lui et en bien. Cette fois-ci, je crois, c'est la rosette assurée s'il ne l'a pas déjà. M. Proglio ou l'art de faire passer une forfaiture pour un acte héroïque. En fait, la manœuvre a un nom. C'est un mélange de la technique de la concession et du principe du contraste, que les spécialistes de la persuasion et de la manipulation connaissent très bien. Faire une proposition à la limite de l'inacceptable, voire carrément indécente. Très important. Si ça marche et ça arrive, c'est bon que pour vous, vous aurez tout gagné. Sinon, ça vous laisse une marge de négociation plus que confortable. Ainsi, vous atteignez tranquillement votre objectif et tout le monde le trouvera raisonnable parce que d'une part, vous aurez fait des concessions, très gentil, mais aussi grâce au contraste qu'il ne manquera pas de provoquer par rapport à votre proposition de départ qui, je le rappelle, doit être indécente. Et en prime, parce qu'il y a une prime, vous aurez les compliments de la victime de votre arnaque parce que vous vous serez montré modéré et généreux. Ça s'appelle du grand art.
Bonjour à tous. Dès son arrivée à EDF, Henri Proglio a augmenté son salaire de 45%. Mais on annonce aux abonnés qu'ils paieront plus cher leur électricité lors des pics de consommation, c'est-à-dire quand ils en ont besoin. Depuis qu'il a été nommé par Sarkozy, Henri Proglio s'est occupé principalement de cumuler deux rémunérations. Il a donc passé tout son temps à obtenir l'appui des membres des conseils d'administration de Veolia et EDF plutôt que de diriger l'entreprise. Résultat, la France a perdu le contrat mirifique d'Abu Dhabi, on ne peut pas être au four et au moulin. Mais il y a pire que les journalistes ne disent pas. Depuis des décennies, les médias, les politiques culpabilisent systématiquement les Français, ouvriers, employés ou cadres moyens, en les accusant d'être rétifs à la mobilité professionnelle. On leur reproche de ne pas bouger, de résister aux mutations dans d'autres régions ou d'autres pays, de ne pas vouloir changer de métier tous les 7 ou 8 ans, de refuser déménagement et licenciement. On cherche ainsi à leur faire honte et à les rendre responsables du chômage, des bas salaires ou des conditions de travail en martelant que les salariés français sont frileux et casaniers, à la différence des Américains évidemment. Or, la carrière d'Henri Proglio, que tous les ministres nous présentent comme, je cite, le meilleur patron de France ou le plus grand patron du CAC 40 et autres billevesées, eh bien cette carrière s'est entièrement déroulée dans la même entreprise. Il est entré en 1972, il y a donc bientôt 40 ans, à la Générale des Eaux, qui a changé de nom deux fois, devenu Vivendi et Veolia Environnement, mais c'est la même entreprise. C'est donc en restant vissé au même endroit qu'il a pu faire son trou, se constituer un gros carnet d'adresses et des réseaux de copains et de coquins. Avis aux amateurs.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe, c'est Bernard à Lyon. C'est marrant, je travaille pas loin de la préfecture, j'ai une super vue sur ce qui s'y passe en ce moment, et en ce moment il y a le débat sur l'identité nationale avec notre ministre Besson. Et je trouve ça très drôle, on fait un débat en ayant bloqué toute la préfecture de telle manière à ce que personne puisse y aller, donc j'imagine que si on n'a pas de carte de l'UMP, on doit avoir quelques difficultés à s'y rendre. Je trouve ça très drôle, enfin je trouve ça, comment dirais-je, débattique. Ah non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas grave, ça doit être de la débattude alors. Passez une très bonne journée à tous.
Allô, bonjour Daniel, je suis une habitante de Nantes, je viens de passer au Pont du Sens devant le squat qui était occupé depuis quelques mois par des jeunes. Alors ils sont une dizaine sur le toit de la maison et il y a, allez, 15 camions de CRS, plus les pompiers, ils sont sur les cheminées, sur le toit, on essaye de les évacuer, le droit au logement opposable, croire que ça marche pas pour tout le monde. La maison en question appartient au notaire, qui est voisin. Elle va être rasée, on va construire des parkings, des immeubles, enfin bref, tout va bien. Et ces jeunes-là iront habiter ailleurs, peut-être dehors ou dans d'autres squats. Voilà Daniel, j'espère que tu diffuseras ce message parce que vraiment j'ai de la peine pour eux. Au revoir.
La remise en cause des retraites. Je me faisais déjà beaucoup de soucis à ce sujet, mais cet article du Canard enchaîné du 20 janvier n'a rien fait pour m'apaiser. Le procès a donné lieu à une savoureuse découverte. France 2 faisait travailler son chef opérateur avec des contrats de remplacement, bidons, sur lesquels figuraient des noms fictifs. Sur le papier, l'intéressé avait ainsi remplacé au pied levé et à plusieurs reprises, novembre 2003, novembre 2004, mai 2005, etc., un salarié de la chaîne décédé depuis mai 2002. France Télévisions, groupe public, censé montrer l'exemple. Des morts avaient déjà le droit de voter, voire de se faire vacciner contre la grippe, Canard a enchaîné des trois dernières semaines, et maintenant de bosser. On nous dit que nous devenons de plus en plus vieux, mais pas immortels quand même. Eh bien si. Alors Daniel, une bonne nouvelle. Votre carrière est toute devant vous. Allez, je vous souhaite que ça dure longtemps encore. Et ça m'a fait pas mal sourire. Bon, eh bien, bonne route à tous et merci pour vos émissions. Allez, ciao.
Merci, chers AMG, pour tous vos messages. Une question se pose pour toutes les Françaises et tous les Français. Comment tenir jusqu'à ce soir la grande rencontre Sarko-Pernaud hante tous les esprits? C'est le grand débat. Une soirée dédiée à Nicolas Sarkozy sur TF1. Comment en est-on arrivé là? Comment TF1 est devenu TF1, aujourd'hui dans la base, si j'y suis. Retour sur l'origine de cette merveilleuse histoire qui va nous donner cette merveilleuse soirée avec de merveilleux journalistes. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis. Au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour les AMG, auditeurs. Pas si modeste que ça et encore moins géniaux. Je suis Robert de Lyon. Je suis un patron, un de ceux que vous pourfendez à longueur d'émission et de répondeur, un de ceux que vous appelez un riche, qui roule en 4x4 allemand, qui voyage dans les plus beaux endroits du monde, qui passe ses week-ends dans l'une de ses résidences secondaires. Pourtant, je vous écoute chaque jour, sans doute pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre, pour comprendre cette France de décroissant, d'altermondialiste, d'intello, pour mieux l'affronter, voire la détruire. Car si vous ne m'aimez pas, si vous ne nous aimez pas, sachez qu'on vous le rend bien. Je vous considère surtout comme des aigris, des jaloux, alors dites-moi, une question me taraude. Si vous étiez riche, défendriez-vous vos idées de société égalitaire, vos idées de gauche?
Bonjour, c'est Jean-Claude, je suis producteur de lait dans le Maine-et-Loire. Il se passe une chose incroyable. En campagne en ce moment, un mouvement asyndical et apolitique s'est créé pour imposer un modèle nouveau dans l'agriculture européenne. Des actions ont lieu tous les jours partout avec des réunions pouvant rassembler 1500 personnes. C'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que pas un média national ne le relate. Il y a vraiment un sacré problème dans notre pays, sur le silence des médias, sur tous les mouvements sociaux. Cette lame de fond, c'est la détresse des producteurs de lait qui l'a créée, et cela s'appelle l'appli.org. Monsieur Mermet, je vous en prie, penchez-vous sur ce problème, et vous prouverez peut-être qu'un tout petit espace de liberté existe encore dans l'information. Merci.
Bonjour à tous les AMG. Nicolas Sarkozy a passé beaucoup de temps à nous expliquer que le PIB était un indicateur périmé pour mesurer l'état d'une économie. La crise arrive et voilà qu'il nous ressort ce même PIB pour nous expliquer que la France a mieux résisté que l'Allemagne à la crise et que sa politique doit bien y être pour quelque chose. Il est vrai que le PIB de la France a moins baissé que celui de l'Allemagne. Mais il y a un chiffre dont il se garde bien de parler. En 2009, le chômage a augmenté de 200 000 en Allemagne et de 800 000 en France. Alors je me permettrai de suggérer une question à Jean-Pierre Pernaut, qui va interroger le président la semaine prochaine, si bien sûr d'ici là il n'est pas fait prisonnier par les rebelles talibans. Qu'est-ce qui est le plus important pour le peuple? 0,5 point de PIB ou 600 000 chômeurs de plus? Pour info, Mme Merkel a réussi ce tour de force en permettant une réduction importante du temps de travail dans les entreprises, alors que M. Sarkozy favorise toujours les heures supplémentaires. C'était Pascal Dumont.
TF1 est déjà la première chaîne de télévision en France. Avec sa privatisation, le paysage audiovisuel va connaître une véritable révolution.
Pour les promoteurs de la déréglementation des médias dans les années 80, la concurrence, disait-il, devait organiser la diversité et le pluralisme.
Nous serons une chaîne de culture. Et nous serons une chaîne de culture et nous avons l'ambition d'imposer notre marque sur... De ce point de vue-là.
Quand on est la grande chaîne de télévision qui est la Une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat.
Et nous avions le choix entre deux voies, le déclin et le repli sur des structures inadaptées, ou bien la renaissance et la vitalité au profit du génie même de nos créateurs.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, sans transition, prévention, le gouvernement a lancé une grande campagne de mobilisation contre le cannabis. C'est une bonne chose, mais il y a des drogues plus dures et plus dangereuses, souvenez-vous.
Depuis que Marie vit dans cette maison, elle a vu 2400 fois le journal de Pernaut dans le salon. 600 fois combien ça coûte dans la cuisine. 246 fois il n'y a que la vérité qui compte dans la salle à manger. Il a regardé 45 000 heures de télé-réalité dans la chambre. Au total, Marie a passé 86 765 heures devant TF1. Le problème, c'est que Marie a 14 ans.
On paye trop d'impôts et il y a trop d'insécurité dans le pays. Il n'y a que Sarkozy qui peut nous sauver.
Et qu'elle est complètement idiote. Attention, regardez TF1, nuyez aussi à votre entourage.
Du mieux-disant culturel à la part de cerveau disponible, la merveilleuse histoire de TF1 aujourd'hui, en un quart de siècle, une minorité a imposé ses intérêts économiques au détriment de l'intérêt général, au détriment de millions de femmes, d'hommes et d'enfants, saccagés, humiliés, égarés, dans un monde sans suite. Ça s'est fait naturellement grâce à la collaboration des malins qui aujourd'hui occupent les bons trous dans le bon fromage. C'est jusqu'à 16h, dans la basse, si j'y suis, de Troubles Faites, Gilles Balbastre, auteur de Le Journaliste au quotidien, et Pierre Rimbert, auteur de Libération, de Sartre à Rothschild. Étienne Moujotte, ce sera pour une autre fois.
À TF1, c'est le changement dans la continuité. Hier, la passation de pouvoir entre Hervé Bourges et Francis Bouygues s'est faite avec le sourire. Auparavant, le nouveau PDG avait remis un chèque en béton armé au ministre des Finances, 3 milliards de francs, et la Une avait changé de propriétaire. Cette dernière formalité réglée, Francis Bouygues est venu s'adresser au personnel de TF1. Pas d'inquiétude à avoir, on garde le cap avec la même équipe.
Mes chers amis, il y aura beaucoup de travail à faire dans tous les domaines et à tous les niveaux. TF1 doit rester une chaîne de télévision indépendante au service du plus grand nombre de téléspectateurs. Bien sûr, la rentabilité doit être notre souci. Malgré cet impératif, je tiens à affirmer ce soir que la préoccupation première et de très loin la plus importante est celle de la qualité. Ne vous attendez pas à de profondes modifications dans l'organisation de demain. Il y aura seulement 3 hommes de Bouygues qui viendront aider à la modernisation et à la gestion. J'ai promis et je confirme ce soir qu'il n'y aura pas de licenciement. Mais surtout, je mettrai en place une stratégie qui nous permettra d'engager des jeunes qui apporteront à la chaîne leur dynamisme et leur foi dans l'avenir.
Le 16 avril 1987, il y a 20 ans, on voyait dans la télévision, comme on disait à l'époque, Francis Bouygues lui-même remettre à Édouard Balladur un chèque de 3 milliards de francs, c'est-à-dire 400 millions d'euros d'aujourd'hui. Mais c'était une somme absolument considérable. Et pourquoi ça? Eh bien parce que Francis Bouygues venait d'acquérir TF1. C'était la privatisation de TF1. C'est cette privatisation de TF1 qu'on va évoquer avec Gilles Balbastre, journaliste, et Pierre Rimbert, également journaliste. Mais j'aimerais qu'on essaye de brosser le contexte de l'époque, le contexte dans lequel cette privatisation a eu lieu. Pierre Rimbert.
Alors, la privatisation de TF1, elle s'effectue un an après l'arrivée de la droite au pouvoir, qui gagne les législatives en mars 86, et on a un Premier ministre qui est bien connu, qui est Jacques Chirac déjà. Jacques Chirac dans sa phase la plus libérale. La télévision à l'époque, c'est Christine O'Crène qui présente le journal de télé de 20h, c'est Patrick Sébastien qui est encore là aujourd'hui, c'est Stéphane Collaro avec le bébé de show, avec les marionnettes qui font leur apparition, lui n'est plus là, et puis c'est la constitution des groupes de communication qui règnent encore aujourd'hui à la radio comme Énergie, et des gens comme Jacques Séguéla, Serge Julie, Bernard Tapie, les vidéoclips, et puis TF1 à ce moment-là est dirigé par Hervé Bourges.
La privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut éloigner l'État de l'information, réduire l'importance du secteur public et favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation de contribution à la création au moins égal au niveau actuel.
Alors voilà, François Léotard à l'Assemblée nationale, le 14 mai 1986, c'est très précis, il s'agit d'éloigner l'État de l'information et puis aussi d'ouvrir à un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. 20 ans plus tard, on se demande, l'un et l'autre, Gilles Balbastre qui est un journaliste de télévision et Pierre Rimbert qui est un observateur avisé, est-ce que cette qualité a été au rendez-vous ?
Ça prête quand même à sourire et c'est toujours agréable de retrouver des archives et de repointer ce que les hommes politiques ont pu dire pour tenter de faire avaler aux gens la privatisation de TF1. Et c'est vrai que le gouvernement, l'État, contrôlait énormément les informations, hein, que ça soit sur les chaînes de services publics, TF1 et France 2, avant 81, c'est un fait, le pouvoir gaulliste et giscardien contrôlait l'information aussi bien sur France Inter, là où on est, que...
Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui.
Alors voilà, ça sera...
Alors là.
Là, on va... on pourra en parler un peu plus tard.
Ça fait rire aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a aucun lien entre le monde politique et
non, les surtout par exemple entre les PDG de Radio France, qui n'ont aucune affinité politique ou amicale. C'est vrai que ça a énormément changé à ce niveau-là. Enfin, bref, à cette époque en tout cas...
Mais alors à l'époque, ils sont tous dans le même
climat. Ils sont... voilà. Ça c'était un fait. C'est un fait, c'est indéniable. Par contre, ce qui est un fait aussi, c'est que la télévision en tout cas, la production à la télévision était était en partie de qualité. Je dis pas qu'elle était totalement de qualité, mais elle était en partie de qualité.
Pierre. Alors bon, Léotard dit on veut éloigner l'État de l'information. Et il me semble que sa grande réussite, surtout, ça aurait été de rapprocher l'information de l'argent. Parce que ça, c'est la dimension qui est sous-jacente aux propos de Léotard. Alors effectivement, le monopole public de l'audiovisuel a volé en éclats. Bouygues, Vivendi, Bertelsmann, Lagardère aujourd'hui, quadrille le capital des chaînes des télévisions privées. TF1, qui est la plus puissante chaîne de télévision européenne en termes de part d'audience, n'est plus publique, c'est un fait. Mais ses liens avec l'État... L'État dont Léotard voulait éloigner la présence de l'information, ces liens-là n'ont jamais été aussi étroits. D'abord parce que Bouygues doit une partie de son chiffre d'affaires aux commandes publiques, soit à travers son activité de bâtiments et travaux publics, soit à travers son activité de traitement des eaux. Ensuite, parce que les liens entre le patronat de la presse et les politiques sont eux aussi très très étroits, très forts. Vous savez que Martin Bouygues, donc le fils de Francis qui a signé ce gros chèque à Balladur en 86, Martin Bouygues est à la fois le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, il est le parrain de l'un des fils du ministre de la police, de l'ex-ministre de la police. Et d'ailleurs, Nicolas a confié, Martin, c'est pour moi la définition de l'amitié, de la droiture, de la fidélité. Depuis 25 ans bientôt, nous nous parlons tous les jours. Et effectivement, tous les jours ou presque, TF1, en retour, parle de Sarkozy.
Ah, nous vous attendions, monsieur Sarkozy.
TF1, ça fait quand même du bien de savoir qu'on a une maison. N'est-ce pas, monsieur Sarkozy ?
Je crois que cette décision est une triste décision. Les Français sont extrêmement attachés, vous savez, à leur télévision. Ils aiment leur télévision. Et en particulier, TF1, c'est la première chaîne qui a marqué l'aventure de la télévision. TF1 a été, est toujours, la grande chaîne nationale populaire de qualité. C'est le bien commun des Français. TF1 appartient non pas au gouvernement, non pas à un parti, non pas à un groupe privé, mais aux Français eux-mêmes. Et vous savez, je crois que beaucoup de gens en France n'accepteront pas que leur bien commun, leur patrimoine commun, qui est en même temps celui des artistes, des créateurs, des techniciens, des journalistes, qui pendant 40 ans, ont fabriqué une bonne télévision, peu de personnes accepteront ce bradage à un intérêt privé.
Bradage à un intérêt privé, Jack Lang, le 16 mai 1986, on voit quand même qu'il y a une opposition à cette privatisation. Gilles Balbaz.
Oui, enfin, une opposition de circonstances. Parce que, encore une fois, on a quand même évoqué la préparation d'un bouleversement de l'audiovisuel depuis 1982 par les socialistes. C'est sûr qu'ils vont pas privatiser une chaîne publique, mais ils vont quand même mettre en place deux chaînes privées, la 5 et TV6, qui facilitent le travail à la droite, qui donne à la possibilité à la droite de privatiser TF1. Une fois que vous avez dérégulé comme ça un secteur, que vous mettez en place de la concurrence, qu'est-ce que vous voulez que fassent les services publics, si ce n'est réagir comme ses concurrents, utiliser les recettes de ses concurrents, se comporter comme ses concurrents, et donc aller de plus en plus vers ses concurrents. Et on aura l'occasion de s'apercevoir que les autres chaînes de services publics vont peu à peu aller vers ce que TF1 a imposé, mais c'est que la 5 et TV6 avaient commencé à imposer dans ce paysage audiovisuel.
This is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is a sound of sea. This is a sound of sea. This is a sound of sea. This is a sound of sea.
Le gouvernement a ainsi décidé de proposer au Parlement de privatiser TF1. Ceci dans le cadre d'une loi beaucoup plus vaste qui organisera la liberté de communiquer dans une perspective moderne, mais concurrentielle et européenne. Pourquoi ? La création audiovisuelle, chacun le voit aujourd'hui, stagne dramatiquement dans notre pays. L'argent de la redevance est très mal employé. Et nous avions le choix entre deux voies, le déclin et le repli sur des structures inadaptées aux techniques modernes de communication, ou bien la renaissance et la vitalité au profit du génie même de nos créateurs.
Voilà, le génie même de nos créateurs, eh bien, ce sera le génie même de Francis Bouygues, qui, je le rappelle, le 16 avril 1987, symboliquement, se rend propriétaire de TF1. Une réaction sur ce discours de Jacques Chirac à l'Assemblée nationale le 15 mai 86, l'un ou l'autre, Pierre.
C'est un grand mot, la création, les créateurs. Il faut être créatif. On devient des individus créatifs et Chirac, à ce niveau-là, embraye ce qu'a dit Jacques Lang depuis 81, 82, en faisant ces grandes fêtes de la création. On est dans cette époque-là.
J'ajoute que c'est aussi la naissance d'un discours qu'on ne remarque presque plus tant il est omniprésent, mais c'est l'association permanente des mots déclin et repli à la notion de service public et simultanément, symétriquement, l'association de renaissance et de vitalité qui sont associées au privé. Et bon, organiser la liberté de communiquer dans une perspective moderne, concurrentielle et européenne, on a vraiment l'impression de trouver là les trois piliers de notre système médiatique actuel. Il faut voir que pour les promoteurs de la déréglementation des médias dans les années 80, la concurrence, disait-il, devait organiser la diversité et le pluralisme. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on s'aperçoit que ça n'a abouti qu'à l'uniformisation de l'information et à la concentration capitalistique des grands médias.
Alors, toujours réaction à cette privatisation, le 7 juin 1986, place de la République à Paris.
Le public nombreux était au rendez-vous lancé par le petit écran. Un seul mot d'ordre pour tous à ce rassemblement, la télé est à nous. De nombreuses vedettes du petit et du grand écran sont venues dire leur soutien. Les témoignages se succèdent sur le podium. De nombreux chanteurs et groupes musicaux se produiront ainsi jusqu'à minuit. Bizarrement, à part Michel Cardoz, pas de vedette de TF1.
Samedi 7 juin.
Les hommes politiques aussi sont présents. Michel Rocard, Jack Lang, Lionel Jospin, Dumont Badger, des représentants communistes. L'enjeu de ce soir est important, mais il faudra attendre pour savoir si ceux qui sont venus soutenir le service public seront entendus.
Si cette manifestation obtient un écho auprès du grand public, vous pourrez peut-être voir fleurir dans les jours qui viennent ces badges pour la télé est à nous, qui auraient pu s'appeler aussi, pourquoi pas, touche pas à mon poste.
Alors, touche pas à mon poste, cette manifestation de juin 1986, et ben, je dois vous dire que j'y étais, j'ai même animé une partie de la soirée sur le podium, et il faut bien dire que ça ressemblait à un baroud d'honneur, et ceux que vous avez entendus auparavant, Jack Lang, etc., se tenaient prudemment à l'arrière du podium, mais en aucun cas, ils ne sont avancés devant le public, et cette journaliste a bien raison de dire que la plupart des vedettes du music hall n'avait pas pris le risque de participer à cette fête parce qu'ils avaient compris que c'était foutu et personne ne veut jamais compromettre sa carrière.
Oui, c'était foutu et surtout que ces vedettes du show business ont excessivement gagné avec cette dérégulation. La prolifération des radios commerciales, des chaînes de télévision a amplifié leur rémunération. Ces vedettes ont profité, c'est bien peut-être ces rares éléments, ces rares catégories sociales qui ont profité de cette dérégulation, c'est gagner de plus en plus d'argent, comme les sportifs du reste, grâce à ce contexte de dérégulation.
La privatisation de TF1, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je m'en fous. Bien sûr, les Berlusconards et les Berlusconasses ne m'ont pas convaincu. Bien sûr, je n'attends rien de bon des ogres friqués, ni des vautours phagocytaires qui claquent leur bec crochu au crépuscule des lucarnes à vendre. Mais je n'irai pas pour autant m'intégrer au cortège des cuistres qui versent des larmes de sang et poussent des brames effrayants à l'idée qu'on va dénationaliser Jean-Claude Bourret. Dans les milieux artistico-intellectuels, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintants de faux amours, on se heurte à ces piliers vermoulus de la culture en pot, qui, hier encore, eussent préféré crever plutôt que de regarder Guy Lux, et qui, désormais, se tiennent prêts à prendre les armes pour que survive la médiocrité. Arrêtez vos jérémiades consternant faux culs qui ne vibraient qu'à Godard et n'exultaient qu'à Lacan. Vous le savez mieux que moi, camarades hydronophobes, que la télévision, d'État ou pas, c'est déjà et ce fut toujours la victoire de la merde sur la beauté des choses. La télévision, d'État ou pas, c'est déjà, ce fut toujours, pour ceux qui n'aiment pas ça, l'obligation de subir à longueur d'antenne les embrassades poilues des cro-magnons footballistiques qu'on vit naguère s'éclater de rire certains soirs de Bruxelles sur le charnier de leurs supporters éventrés. La télé, d'État ou pas, c'est la loi scélérate des hit-parades et des top 50, c'est-à-dire la loi des requins froids et des débiles anglomaniaques et fossoyeurs de la chanson qui pense. C'est le droit à l'apothéose pour les ricacazarailles en perlousée gloussante, reconverties en dondons paramédicales et trempeuses de cul dans des bidets de verveine. La télévision, d'état ou pas, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char ou Reiser ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner d'intelligence sont programmés à la minuit pour que la majorité béate des assujettis sociaux puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un hébété trentenaire figé dans un sourire définitif de hernie ventrale et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. D'état ou pas, la télé, c'est comme la démocratie. C'est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Dommage qu'on n'ait jamais rien trouvé de mieux que les drapeaux rouges ou les chemises noires pour en venir à bout.
On ne peut pas parler des années 80 sans parler de Bernard Tapie. TF1, 4 mai 1996.
Fin mars, à quelques jours des auditions publiques devant la CNCL, Hachette reste favori et mise sur les professionnels qui sont à ses côtés. Tandis que l'équipe Bouygues, elle, s'entraîne chaque jour avec Bernard Tapie et répète méthodiquement devant des caméras sa future prestation.
Ah oui, on fait un vrai training. Alors je vous ai dit pas qu'au début, on était épouvantablement mauvais. Et finalement, on s'aperçoit que, avec un peu de temps, en 3-4 jours, on se perfectionne à la télévision.
Patrick Lelay, que j'ai choisi comme responsable pour ce projet, va vous révéler tous les engagements que nous prenons ici devant vous et devant les Français pour les convaincre.
Alors évidemment, le plus dur à manager, c'est Bernard Tapie, parce que lui, il veut tout faire.
Bon alors, je rappelle bien la chronologie. Il faut qu'on ait tous complètement par cœur dans la tête. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires.
Tout d'abord, premier,
Robert Maxwell.
Robert Maxwell.
Voilà, Robert Maxwell fait son truc. Il revient sur toi quand
je lui dis pas merci.
Non, rien. Quand il te regarde, tu sens qu'il a compris. Tu dis, je vous présente maintenant Evelyne Prouveau.
Je vous présente maintenant Evelyne Prouveau.
Là, tu dis, monsieur Clermont-Tonnerre.
Antoine de Clermont-Tonnerre, voilà. On peut le montrer de la main.
Oui, bien sûr. Jacques Duquesne.
Et l'Oiseau. Et Bernard Tapie.
Voilà, là.
Bon, et puis là-dessus, moi, je vous dis, je suis content en tout cas, oui, machin, etc. Et Patrick Lelay.
C'est toi qui raccroches ?
Voilà, je raccroche sur Patrick Lelay. Et on n'oublie jamais, Chive le sauve.
Le souhaite.
Fiction commune, petite erreur l'un ou l'autre.
On continue. On continue.
Oui,
on
fait un sauveur. Excusez-moi. Ouais.
Excusez-moi, on continue. Ouais.
Oui, je souhaiterais poser une question à M. Bouygues concernant la politique sociale. Comment vous envisagez maintenir les conventions collectives ?
Le titre. On ne connaît pas d'accord avec moi.
Ah, on n'a rien laissé au hasard. C'est une vraie opération militaire. Oui, bah, comme quand il y a une opération militaire, il faut que l'intendance suive. Bah, tout est super organisé. Il n'y a pas eu quelque chose, un détail laissé au hasard.
On est à la veille d'être propriétaire. On le savait, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour. On nous remet la coupe ce soir.
Tu garantis ?
Oui. Alors, vous vous rendez compte ? On nous remet la coupe dans quelques instants. On est heureux d'être là, c'est fabuleux. Quoi. Hein ? Et voilà comment on va le faire.
Voilà un document formidable où Bernard Tapie entraîne Francis Bouygues et Patrice Lelay à la présentation, à leur présentation pour obtenir cette fameuse privatisation. Et on voit le silence de Bouygues quand une journaliste très complaisante lui demande ce qu'il fera en matière de convention collective. Et on voit que Bernard Tapie est quand même l'homme de ces années 80.
Il sera aussi ministre de la Ville quelques années plus tard, sous un gouvernement de gauche, sous le gouvernement, je crois, de Michel Rocard. Là encore, on voit le mélange des genres. Comme on a vu Berlusconi s'emparer de la 5 en 85, et on sait qui est Berlusconi maintenant, et qui était réputé homme de gauche, projet socialiste. Bernard Tapie, qui se mélange avec Bouygues et Lelay, qui les coach, devient ministre quelques années plus tard sous le gouvernement socialiste. Le mélange des genres est total. Encore une fois, ce terrain a été préparé par une déliquescence de la manière de gouverner du Parti Socialiste.
Pierre Imbert.
Oui, alors là, on vient d'entendre la préparation de l'audition. Mais alors, l'audition elle-même va être encore plus savoureuse. Elle se passe le 3 avril 87. Elle est retransmise en direct sur TF1. Et Bouygues, Francis, déclare « Notre grand projet repose sur des idées simples. »
Notre grand projet repose sur des idées simples.
Informer, divertir, cultiver.
Informer, divertir, cultiver.
En bref,
servir le téléspectateur.
Alors, Patrick Lelay prend la parole, il exprime ses priorités. Tout d'abord, respecter le téléspectateur.
Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples. Tout d'abord, respecter le téléspectateur.
Puis il célèbre la culture, le plaisir de vivre ensemble.
La culture française doit résister, parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble, parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projets.
Et il parle aussi, évidemment, de l'importance de sauvegarder la qualité des programmes. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant cette audition, Catherine Tasca interroge l'équipe de TF1 sur l'existence d'émissions culturelles ambitieuses de haut niveau et donc, pour un temps encore, de faible audience, pas seulement à titre exceptionnel. Ça, c'est l'exigence de la commission. Réponse de l'un des membres de TF1.
Nous serons une chaîne de culture. Nous serons une chaîne de culture et nous avons l'ambition d'imposer notre marque de ce point de vue-là.
Une chaîne de culture. Et puis Bernard Tapie enfonce le clou. Francis Bouygues a une vertu devenue rare.
Il a une vertu devenue rare. Il dit ce qu'il fait et il fait tout ce qu'il dit.
Quand on est une grande chaîne de télévision comme La Une...
Quand on est la grande chaîne de télévision qui est La Une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat.
Oublier l'audimat. Alors on a entendu la préparation de l'audition, des propos tenus à l'audition, et là, changement de ton parce que un mois après, Bouygues a remporté La Une... Et les promesses de Bouygues, de Lelay, de Tapie n'engagent, un peu comme celles de Pasqua, que ceux qui y croient. Une fois qu'il a remporté la mise, Bouygues explique sur Europe 1, et là vous allez voir le ton a un peu changé, « Nous sommes privés, nous sommes évidemment une chaîne commerciale, il y a des choses que nous ne souhaitons pas faire, par exemple du culturel, du politique, des émissions éducatives. » Et de son côté, Le Lay a tout à fait perdu son goût pour la culture. Dans les colonnes de Libération, lui écrit « On ne vit plus qu'avec les chiffres de l'audimat. Il faut avoir le respect du goût du téléspectateur, ne pas le forcer à regarder ce qu'il n'a pas envie de voir. Passer une émission culturelle sur une chaîne commerciale à 20h30, c'est un crime économique. »
Alors, Pierre Rimbert, quel était l'intérêt de Bouygues là-dedans? Parce que, bon, c'est Francis Bouygues ne manque pas de travail, il a la tête d'une entreprise considérable, qui a des marchés partout dans le monde. Quel était l'intérêt du groupe Bouygues d'acquérir TF1?
Mais d'abord, TF1, c'était, l'ont expliqué Pierre Péan et Christophe Nix dans leur enquête sur TF1, un pouvoir, TF1, ça n'est pas seulement une chaîne, c'est un pouvoir politique, c'est un pouvoir d'influence économique. Et un pouvoir politique, pour une raison très simple, c'est que lorsque on transforme la liberté de la presse audiovisuelle en une propriété privée, on s'achète du même coup le pouvoir d'influencer les politiques. Et dans leur bouquin, justement, TF1, un pouvoir, Péan et Nick citent un proche de Bouygues, un de ses collaborateurs qui a préféré garder l'anonymat, et on va voir pourquoi. Ce collaborateur explique à propos de Francis Bouygues. Francis avait le plus grand mépris pour les politiques qu'il savait pouvoir acheter. Avec une chaîne de télévision, il comprend qu'il n'aura plus à les solliciter, mais que ce sont eux qui viendront manger dans sa main. Dès cette époque, il avait imaginé comment quelques minutes accordées au JT de 20h à des leaders du tiers-monde aideraient son groupe à obtenir des marchés. En rentrant du festival de Cannes en 87, peu après qu'il eut gagné, Francis m'a confié « Je me rends compte que TF1 c'est fantastique. Ce n'est pas moi qui suis demandeur, c'est eux qui le deviennent. » Il venait de constater l'inversion du rapport de force. Fin de citation. Et c'est un moment décisif, la victoire de Bouygues dans l'attribution de TF1. Et à vrai dire, plus que la victoire de Bouygues, la privatisation de TF1. Ça entérine un basculement du rapport de force entre les politiques et les médias. Auparavant, les politiques dominaient l'univers des médias. Ils pouvaient légiférer dessus, ils pouvaient au moins tenter de réguler cet univers. Après la privatisation de TF1, ou plutôt après les années 80, c'est les médias qui peuvent mettre en scène, qui conquièrent le monopole de la mise en scène de la vie politique. Et peu à peu, les politiques ont pris peur du pouvoir qu'ils ont octroyé aux médias, au point de ne plus oser essayer de le contrôler. J'ajoute une chose, c'est que Bouygues a tellement bien compris ce système des intérêts secondaires qu'en 1994, il crée LCI. Alors c'est 8 ans après la privatisation, 7 ans, et Bouygues dit « Cette chaîne sera un instrument de pouvoir. Pourquoi » Pourquoi? Eh bien parce que sur LCI, il va faire défiler tous les gens qui se pensent importants, mais qui n'ont pas l'occasion de passer sur TF1.
Eh oui, bien sûr.
Sur TF1, on peut pas faire passer tout le monde. Et Bouygues avait tout à fait compris ça. Tous les seconds couteaux de la politique, du journalisme, de l'économie vont défiler sur LCI. Et Bouygues, d'ailleurs, qui était malin comme un singe, avait veillé à confier des émissions à tous les éditorialistes les plus infatués de la scène parisienne. Luc Ferry, Jacques Julliard, Claude Imbert, Edoui Plenel ont tous hérité d'une émission de télé sur Bouygues, et du coup, ont cessé, tant bien qu'ils voulaient le faire, de critiquer TF1 et LCI. Et le directeur d'antenne de LCI, qui s'appelait Dutoit, nous avait dit... 20 à 25 000 Français se considèrent comme des acteurs de premier plan de la vie politique, économique, religieuse, intellectuelle, scientifique. Si nous ouvrons une chaîne d'information, on se fera 25 000 copains. Et ça n'a pas manqué, ça a été 25 000 obligés sur lesquels Bouygues savait pouvoir compter pour ne pas desservir ses intérêts.
Le 15 avril... Ils seront 7000 invités à Port-Marly, chez Francis Bouygues, dans une fête absolument formidable, d'un enthousiasme formidable, comme dit, qui l'on sait. Et, tout se passe bien, on est content. Le numéro un mondial du béton a acquis cette télévision publique. tout le monde est content. Il y aura quand même là aussi des petits bémols dans l'émission de Michel Pollack, Droit de réponse à l'époque. Un certain Viaz, un dessinateur qui s'appelle Viaz. Il y avait des dessinateurs qui participaient à cette émission et Viaz travaille toujours. Et c'était le moment du pont de l'île de Ré. Hein, et c'était évidemment Bouygues qui construisait ce pont sur l'île de Ré. Et le dessin de Viaz était accompagné de la légende suivante. Une maison de maçon. Une maison de maçon, c'était le slogan des maisons Bouygues. Hein. Une maison de maçon, un pont de maçon, une télévision de merde. Et Pollack a refusé de revenir sur cette sur ce dessin et sur cette légende. Et Pollack a été viré.
Rira bien qui rira, le dernier dit le proverbe, ce pouvait être la devise de tous les exclus du petit écran qui se sont vus récompensés hier soir lors de la nuit des 7 d'or. Patrice Drevet récompensé dans la catégorie pour la jeunesse avec son mini-mag supprimé sur TF1. Et puis Michel Pollack était bien sûr présent, il n'a pas manqué d'exercer son humour sur son ancien patron Francis Bouygues au micro de Daniel Messager.
Je trouve cette soirée absolument extraordinaire parce que à mon avis c'est le dernier 7 d'or qui est organisé, parce que comme l'année prochaine, ça risque d'être TF1, je ne vois pas Monsieur Bouygues recevoir sur sa chaîne cette avalanche de tuiles. C'est pas possible, de toute façon, il n'y aura que des fantômes l'année prochaine. Ils vont tous être virés les uns après les autres, et il ne restera plus que les feuilletons américains et japonais.
Vous le voyez en quoi le 7 d'or l'année prochaine, s'il y en a encore un?
Ah non, mais ça, alors vraiment en béton et en béton armé, comme m'a dit un machinot, parce que, non, d'abord il veut faire des économies, monsieur Bouygues, sur le personnel, alors le bronze c'est déjà trop cher. Il trouvera sûrement un maçon chez lui pour lui faire ça.
Il me semble que le son qu'on vient d'entendre montre à quel point le pouvoir du propriétaire est quelque chose qui existe et qui est un vecteur de censure presque parfait. Un média qui est possédé par un propriétaire, qu'il soit privé ou public, ne dessert jamais les intérêts de ce propriétaire. Ça, c'est un pouvoir qu'a le propriétaire. Bah, il s'est sûr. Acheté ce journal, cette chaîne de télévision, donc il en fait en quelque sorte ce qu'il veut, en théorie, sous réserve du respect du cahier des charges qui lui a été imposé. Mais en théorie seulement. Mais la censure qu'évoque Jean-François Kahn, donc qui est la censure directe du propriétaire, elle porte essentiellement sur les intérêts directs du propriétaire. En revanche, le propriétaire ne va pas dicter le contenu de la chaîne TF1. Et là, c'est peut-être une autre censure, un autre type de censure qui prend le relais. C'est la censure par l'audience, par l'audimat, par un autre moyen qui est celui de la concurrence des chaînes entre elles. Et un personnage qui s'appelle Carlo Freccero, qui était l'ancien directeur des programmes de La5, la chaîne donc confiée à Berlusconi, l'avait lui-même reconnu dans les années 80. Il disait « Il y a une censure terrible dans les télécommerciales qui interdit toute création dissonante avec la philosophie des grilles des programmes. La télécommerciale devient un spectacle mis en scène pour promouvoir l'écoute du spot publicitaire qui doit être très convaincant pour obliger le spectateur à acheter les marchandises réelles. » Le spot a acquis une telle place dans la télé commerciale qu'il a donné naissance à une façon de produire. Pour captiver le plus grand nombre possible de spectateurs pendant le plus longtemps possible, la télé doit demander un effort mental minimum. Et là, oui. Il dit ça au début des années 80, c'est du lait sur oui, le temps ça. De cerveau disponible avant l'heure. 20 ans ou 18 ans avant le lait, on avait déjà ce genre de propos de la part de directeurs de programmation.
Le poids moyen d'une belette, le petit carnivore, est de 70 grammes ou 140 grammes, la belette. Vous prenez votre temps, bien sûr, et nous retournons vers nos téléspectateurs qui veulent jouer avec nous. Tous les gens qui ont gagné 500 euros ou 1000 euros, de toute manière, se sont inscrits, d'accord? On fait des erreurs au quotidien sur TF1. Une petite pause toute courte, le temps que vous téléphoniez, pourquoi pas, pour vous inscrire, et nous revenons après celle-ci.
Le projet du gouvernement de l'époque de 1986-87, à travers les propos de François Léotard, c'était d'éloigner l'État de l'information. Effectivement, encore qu'on puisse être un peu sceptique là-dessus, l'État a été éloigné de l'information, ou du moins le poids de l'État sur l'information, du gouvernement sur l'information, se fait de façon différente. Hein, ça avait au moins le mérite d'être clair à l'époque de l'ORTF. Mais l'information en s'éloignant de l'État, c'est évidemment rapprocher des puissances d'argent. C'est ce qu'on peut,
il y a de beaux restes dans le service public quand même. Sur France Inter, sur Radio France, sur France 2, on peut pas dire que des gens comme Arlette Chabot sont très très éloignés de Nicolas Sarkozy.
Okay. Pierre Imbert.
Je pense que la privatisation de TF1, au fond, ça n'a fait que entériner une dérive commerciale que la télévision publique avait engagée depuis quelques années. Hein, rappelons-nous, les émissions Vive la crise, c'est sur France 2, c'est pas sur TF1 privatisé, c'est sur France 2 public. L'émission Ambition de Bernard Tapie, c'est sur TF1 public. Donc il y avait déjà eu un mouvement de spectacularisation de la télévision publique que cette privatisation n'a fait que entériner. En ce sens, c'est un aboutissement, mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi un point de départ. Car une fois TF1 privatisé, ce qui était jusqu'alors juste une dérive va devenir la norme. Hein, la norme de l'audimat qui va assigner pour seul rôle à la télévision de canaliser des spectateurs vers des spots publicitaires. Et c'est la fameuse phrase de Lelay, hein, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Et ce qui est intéressant dans la privatisation de TF1, c'est qu'elle va en quelque sorte interdire tout retour en arrière. La chaîne privée, elle impose aux autres chaînes de se battre sur son terrain. Parce que TF1, c'est 33% de part d'audience, mais c'est près de 55% du marché publicitaire de toute la télé. Toutes les sommes qui sont investies en publicité à la télé, eh bien une majorité de ces sommes revient à TF1. En 2005, TF1 a diffusé 814 heures de publicité. Si vous les mettez bout à bout, ça fait 34 jours de publicité diffusée en continu. Et c'est pour ça que TF1 a la capacité de fixer le marché de la publicité à la télé, de fixer la norme de la production télévisée. Et c'est la locomotive, France 2, France 3, et même une chaîne comme la 5e, etc., sont les wagons. Elle est devant. Elle impose la manière de faire de la télévision. Et pour changer la télévision, eh bien, il paraît évident qu'il faut commencer par arrêter cette locomotive. S'il existait une volonté politique de changer les choses pourraient être changées. Mais bon, pour le moment, la volonté politique, c'est plutôt de les conserver en l'état. Au début de l'année 2007, le gouvernement a offert un petit cadeau d'adieu aux chaînes privées TF1, M6 et Canal+, puisqu'elle a adopté le principe d'une reconduction simplifiée de l'autorisation d'émettre de TF1 jusqu'en 2022.
Yeah.
C'était la rediffusion d'une émission préparée par Renaud Lambert. Merci à Pierre Rimbert et Gilles Balbastre. À lire Libération de Sartre à Rothschild, un livre de Pierre Rimbert publié aux éditions Raison d'agir. Journaliste précaire, journaliste au quotidien de Gilles Balbastre publié aux éditions Agone. Et TF1 un pouvoir, un livre de Pierre Péan et Christophe Nick paru aux éditions Fayard. Sachez que toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, il y avait Céline Bonhomme et Olivier Daligo, à la réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assisté d'Agnès Lebot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro de téléphone de là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37.
MSSF, bonjour.
Bonjour, je vous appelle car j'ai pris la résolution de faire fructifier mon épargne en 2010.
Vous faites bien. Le contrat d'assurance vie RES en euros a été rémunéré à 4,55% net en 2009.
4,55%?
Oui, le RES est l'un des contrats les plus sûrs et les plus performants du marché, avec un rendement exceptionnel pour tous les professionnels de la santé et leurs proches.
Ah, eux aussi peuvent ouvrir un RES à la MACSF?
Oui, en appelant le 3233 ou en allant dans l'une de nos 80 agences.
Les résolutions, ça a parfois du bon.
MACSF.
Notre vocation,
c'est vous.
Quoi de neuf depuis un an?
J'ai changé de voiture.
Je me suis marié.
Moi, je suis devenu auto-entrepreneur.
Depuis un an, vous êtes plus de 300 000 à vous être inscrit sur l'auto-entrepreneur.fr. C'est tellement simple aujourd'hui de monter un projet ou de cumuler deux activités en profitant de démarches et d'un régime fiscal simplifié.
L'auto-entrepreneur.fr, c'est si simple d'entreprendre.
C'est un message du ministère chargé de l'économie.
Solidarité Haïti avec la Fondation de France. Radio France, France Télévisions et Le Monde lancent un appel à la générosité.
Tout ce que nous demandons, c'est de l'aide, non pas seulement de la nourriture, non pas seulement l'eau, mais de l'aide pour que la communication...
308 Paris ou via internet sur www.fondationdefrance.org.
Dans quelques minutes, Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon sur France Inter. Il est 16h. Les informations, Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour à tous. Celui que l'on surnommait Ali le chimique a donc été exécuté en Irak. Ali Hassan Al-Maji était un dignitaire du régime irakien sous Saddam Hussein, dont il était un cousin, redouté pour son extrême dureté. Capturé en 2003, il avait été condamné à être pendu pour le massacre par gazage de 5000 Kurdes irakiens. C'était en 1988 à Al-Abja. Trois autres condamnations à mort avaient été prononcées pour ses méfaits sous cette dictature. L'Irak qui ne sort pas de la violence. Un triple attentat cet après-midi dans le quartier des Grands Hôtels, proche de la zone verte, a fait 31 morts et 71 blessés, selon un dernier bilan. À Montréal, la première réunion internationale consacrée à l'avenir de Haïti vient de s'ouvrir par le discours du Premier ministre haïtien devant les représentants des 14 pays présents. Jean-Max Bellerive a plaidé pour que l'État haïtien prenne lui-même les rênes de la reconstruction. Le saccage d'une quinzaine de trains en gare de Nice ce week-end va coûter plus de 500 000 euros selon la SNCF. Des inconnus se sont acharnés dans la nuit de samedi à dimanche sur des TER et des TGV qui étaient à l'arrêt. 152 baies vitrées ont été cassées, des extincteurs vidés. Les agresseurs ont également brisé une vitrine de magasin à l'extérieur de la gare et vandalisé une quinzaine de voitures garées à proximité. La police a ouvert une enquête. Nicolas Sarkozy sera ce soir face aux Français, un débat qui doit répondre à un besoin de pédagogie et d'explication, selon Frédéric Lefebvre. La crise a imposé, dit-il, beaucoup de réactivité, des décisions souvent prises dans l'urgence. Il y a donc un besoin d'explication, c'est ce qu'a dit le porte-parole de l'UMP lors de son point de presse hebdomadaire. Le chef de l'État est l'invité du 20h de TF1 ce soir, puis d'une émission spéciale animée par Jean-Pierre Pernaut, où il sera confronté à un panel de Français. Lors du point de presse, cette fois du Parti Socialiste, son porte-parole, Benoît Hamon, a dit redouter une émission sur mesure. Il regrette que les médias se livrent à ce type d'exercice où ils servent, selon lui, d'auxiliaire à la communication politique. La Ligue des droits de l'homme se joint aux critiques émises sur le traitement réservé par les autorités aux clandestins arrivés en Corse vendredi dernier. Dans un communiqué commun avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats, la Ligue accuse le préfet de Corse d'avoir fait activer une procédure de reconduite à la frontière au mépris des règles de droit et sous la pression du ministère de l'Immigration. Le texte appelle à un rassemblement devant la préfecture d'Ajaccio. Un incroyable incident au Metropole Museum of Art de New York, le plus grand musée de la ville. Une visiteuse étudiante en histoire de l'art a perdu l'équilibre et déchiré une toile de Picasso sur 15 cm. Il s'agit de L'Acteur, une toile peinte par l'artiste entre 1904 et 1905. Incident rarissime qui s'est produit vendredi dernier. La toile abîmée sur son coin inférieur droit va subir une intervention chirurgicale.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion tous les mercredis à 19h20. Jean-François Aquili.
Notre invité ce mercredi est Hervé Morin, ministre de la Défense et président du Nouveau Centre. À la veille de la conférence de Londres sur l'Afghanistan, la France doit-elle envoyer des renforts militaires sur place ? Nous parlerons également de la position des centristes aux élections régionales. Rendez-vous avec Hervé Morin dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20.
France Inter présente Norah Jones, The Fall.
En concert à l'Olympia les 24 et 25 juin.
Retrouvez Norah Jones dans le programme musical de France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04. Bon après-midi à tous. Je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, est-ce que la grande musique c'est sérieux? Ça dépend des fois, puis ça dépend de l'usage qu'on fait de ces notes qui sont à tout le monde finalement, qui peuvent donner des merveilles comme des banalités. Et est-ce que c'est sérieux de copier le petit bruit agaçant que produit un bourdon comme Nikolaï Rimsky-Korsakov l'a fait? Bah, en tout cas c'est évocateur, et puis ce qui est sérieux c'est de le jouer, parce que c'est très difficile, ça va très très vite. Et il faut féliciter donc Romain Leleu à la trompette et Julien Lepape au piano. Le vol du bourdon de Nikolaï Rimsky-Korsakov, interprété à la trompette par Romain Leleu et Julien Lepape au piano. Et voici un personnage sérieux et bien élevé. Tiens, remarquez que Rimsky-Korsakov était tellement sérieux qu'il était assez ennuyeux même. Ses mémoires ne sont pas vraiment le rapport de la brigade du rire. Et enfin, ça donne quelques faits précis quand même. Un certain Thalberg, lui, par contre, Sigismund Thalberg, compositeur allemand, né à Genève néanmoins, fils de deux aristocrate, fils naturel, alors dans la vie comme dans son jeu, on raconte qu'il avait beaucoup de tact, qu'il était tellement distingué, tellement correct, sobre, à tel point dénué de cette façon exagérée de jouer au génie, de cette effronterie fanfaronne qui dissimule mal le désespoir. Ça, c'est quelqu'un qui n'aimait pas Franz Liszt qui a écrit ça, parce que Liszt était très agité au contraire, et faisait beaucoup de mouvements. Alors on continue sur Thalberg, les femmes bien portantes l'aiment, les femmes souffreteuses l'apprécient tout autant, et ce bien qu'ils ne fassent pas appel à leur pitié en simulant des crises d'épilepsie au piano, et qu'ils ne misent pas sur leurs nerfs à fleur de peau et ne tentent ni de les électriser, ni de les galvaniser, des qualités négatives, mais belles. Alors ça veut dire ça, oui, des qualités négatives qu'il avait, c'est-à-dire ne pas bouger, ne pas faire des sbrouffes, bon, l'histoire a jugé, l'histoire a retenu quand même plutôt Franz Liszt que Thalberg, mais on n'oublie pas quand même le deuxième couteau admirable qui était Sigismund Thalberg. Voici la sixième des 12 études, opus 26 de ce grand pianiste.